Afrique Matin sur RFI.
À suivre, reportage à Bangui où la bonne volonté des autorités centrafricaines en matière d'éclairage public se retrouve confrontée à la dégradation, parfois au vol des lampadaires installés ces dernières années. Au Bénin ensuite, où les autorités comptent bien faire du tourisme l'un des secteurs clés de son économie. Opération transformation pour certains sites. On parle avec notre invité de l'entrée de Samuel Eto'o au comité exécutif de la CAF. Et comme tous les jeudis, on retrouve Mamane pour sa dernière chronique de la semaine. Mais avant cela, place au sport. Avec vous, Antoine Grenier. Bonjour Antoine.
Bonjour Nemo.
La Ligue des Champions pour ouvrir ce journal avec un Real Madrid miraculé et qualifié pour les quarts de finale.
Le tenant du titre malmené par son grand rival, l'Atlético. Un but encaissé dès la 27e seconde, un pénalty raté par Vinicius et une défaite 1-0 à l'issue de la prolongation, réduisant à néant l'avantage du match aller. Et puis, une séance de tirs au but rocambolesque marquée par l'intervention de la VAR pour invalider la tentative de Julian Alvarez. Bref, de sacrées émotions pour le Real qui finalement fait respecter la tradition en dominant les Colchoneros. Mais pour Aurélien Tchouaméni, le milieu de terrain, une seule chose à retenir, l'aventure du Real continue.
Compte tenu de la physionomie du match, de gagner au penalty, c'est pas ce qu'on aurait préféré, mais à la fin, c'est le plus important de gagner, de continuer dans cette compétition qui nous est très chère, donc on est content, on va bien se reposer et continuer dans notre dynamique. Je pense pas que c'était un match super beau à voir, mais on est juste content d'avoir gagné ce match et de pouvoir continuer. C'est toujours difficile compte tenu de leurs caractéristiques, c'est une équipe qui défend super bien, qui laisse très peu d'espace pour nous permettre de développer notre jeu offensif, ça s'est vu aujourd'hui, mais on est juste content d'avoir gagné. Évidemment qu'on n'aurait pas voulu encaisser ce but rapidement, mais à la fin, on a fait le dos rond, on a essayé de se créer des occasions. On aurait pu marquer ce penalty aussi, mais voilà, c'est juste un fait de jeu et on continue. On voulait absolument continuer dans cette compétition, donc voilà, on l'a fait.
Aurélien Tchouaméni avec Pierre Chaperon, des huitièmes de finale retour qui ont également vu les qualifications de Dortmund, Arsenal et d'Aston Villa. Retour de la Ligue des Champions les 8 et 9 avril pour les quarts de finale aller.
Et puis pour refermer ce journal, retour sur les élections à la CAF et les nouvelles têtes issues de l'Assemblée Générale Élective.
Avec notamment l'arrivée au comité exécutif de Samuel Eto'o, le président de la FECA Foot, et de Bestine Kazadi, présidente de la SV Club de Kinshasa. Ils font partie de l'équipe de Patrice Motsepe, réélu lui président de la CAF par acclamation. Une AG élective qui a également vu les désignations des représentants africains au conseil de la FIFA. 6 élus, 5 hommes et une femme, la Comorienne Kanizat Ibrahim, élue notamment devant la Burundaise Liliane Sekera et la Sierra Leonaise Isha Johansen. Une émotion et une fierté pour Kanizat Ibrahim.
C'est d'abord une grande émotion pour moi parce que c'est un travail que j'ai commencé depuis la normalisation. Je visais effectivement, c'était mon objectif de pouvoir un jour accéder à la FIFA. Aujourd'hui, j'y suis. Et c'est une fierté. C'est une fierté. C'est très bien pour les Comores. C'est bien pour la femme. C'est bien pour l'Afrique. C'est bien tout court. Quoi. C'est pas seulement que pour les Comores. Mais j'aimerais plus parler de la femme dans ce monde masculin et montrer aussi que tout est possible en fait.
Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous avez envie de travailler en particulier déjà ?
Nous allons travailler énormément sur le développement du football féminin.
Kanizat Ibrahim au micro d'Alice Moreno. Son mandat au sein du Conseil de la FIFA court jusqu'en 2029.
Merci Antoine Grenier. On vous retrouve tout au long de la matinée pour les sports.
RFI, toute l'actualité, Nemo en piste.
Les principaux titres de ce jeudi 13 mars 2025. Très rare déplacement hier de Vladimir Poutine sur l'un des fronts de la guerre en Ukraine. Hier, le président russe était à Koursk, dans une région en partie occupée par les forces ukrainiennes, mais où ces dernières reculent. Vladimir Poutine a demandé à son armée de libérer complètement la région. Dans le même temps, hier, Donald Trump a affirmé que des négociateurs américains allaient se rendre en Russie. Les États-Unis qui ont convenu avec l'Ukraine d'une trêve de 30 jours. On attend désormais la réponse de la Russie. Les répliques du Canada, de la Chine et de l'Union européenne aux droits de douane imposés par Donald Trump. La Chine promet qu'elle prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger ses intérêts. Bruxelles et Ottawa annoncent de nouveaux tarifs douaniers en représailles. Et puis il dit assumer ses responsabilités. Déclaration de Rodrigo Duterte, l'ancien président des Philippines, arrivé à La Haye hier, où il a été remis à la Cour pénale internationale. La CPI estime qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il a commis un crime contre l'humanité à propos de sa campagne contre les stupéfiants qui a fait des dizaines de milliers de morts selon les organisations de défense des droits humains. 5h47 ici à Paris. Tout de suite, le reportage Afrique. en Centrafrique. Ce matin, on vous parle dans nos différentes éditions d'information de la capitale Bangui qui est privée d'électricité depuis 3 jours. Seules quelques administrations et hôpitaux sont partiellement alimentés. Pourtant, ces dernières années, les autorités ont mené un vaste projet d'électrification de la ville et de ses alentours. Plus de 5000 lampadaires solaires ont par exemple été installés. Seulement plusieurs d'entre eux ont été vandalisés, voire volés. Alors en attendant la fin des enquêtes judiciaires ouvertes, les chefs de quartier appellent les habitants à protéger ce qu'il reste des installations. C'est un reportage de Rolf-Steff Domialu.
Ce soir, Welcome est attiré par un changement étrange.
Ce lampadaire, c'est pour l'intérêt général du 4e arrondissement. Comme vous pouvez le constater, il n'y a plus de panneaux solaires, plus de batteries et plus d'ampoules. C'est révoltant.
Cahier en main, le visage perdu dans le vide, c'est ici que cet élève de terminale a l'habitude de réviser ses leçons. Il est impuissant devant cet acte de vandalisme.
Ces panneaux solaires sont installés dans chaque arrondissement et nous aident beaucoup. Dans mon quartier, chaque soir, il y a une coupure d'électricité. Maintenant, avec ces vols, ça va être difficile pour moi d'étudier et les examens approchent à grands pas.
Tout au long de cette rue, le constat est le même. Certains lampadaires sont coupés avec des scies à métaux, mais dans la plupart des cas, seuls les panneaux, les batteries et les ampoules sont emportés. Melvin a peur de se promener le soir.
Ces dernières semaines, les actes de vandalisme se sont multipliés et le secteur se retrouve sans lumière. Les voleurs ont l'habitude de grimper au poteau avant de démonter la lampe.
Pourtant, ces lumières solaires sont fixées sur des poteaux d'une hauteur de 5 mètres. Alors que la situation devient de plus en plus incontrôlable au quartier de Bouérab, certains habitants comme Sélikan s'organisent pour protéger ces biens communs.
Qu'ils arrêtent de détruire ce bien public qui fait la beauté de notre ville. Je demande à tous mes compatriotes de prendre leurs responsabilités. Chacun doit veiller à ses lampadaires solaires. Il en va de notre sécurité.
Entre 2020 et 2025, plusieurs milliers de lampadaires solaires ont été vandalisés selon Landry Choisy, directeur de l'entreprise en charge des travaux.
Nous sommes à la deuxième phase du projet d'éclairage public en panneaux solaires. La première phase, ça va faire l'objet de 3800 lampadaires. Et la deuxième phase fait l'objet de 2316 lampadaires que nous sommes en train d'installer. À ce jour, je crois qu'il nous reste 210 lampes à installer pour clôturer la deuxième phase. Nous sommes à 2340 panneaux solaires et lampes qui sont volées. Et nous déplorons ces cas.
Selon la direction générale de la police, une dizaine de voleurs ont été arrêtés ces dernières semaines et traduits en justice. Les lampadaires vandalisés seront réinstallés, explique le gouvernement qui appelle tous les citoyens à être des sentinelles de ces biens publics. Rolf-Steff Domialu, Bangui, RFI.
Un reportage à retrouver sur l'application RFI Pure Radio. Le secteur du tourisme en plein développement au Bénin. D'ici 2030, le pays entend franchir la barre des 2 millions de visiteurs étrangers par an et ainsi doubler ses revenus liés au tourisme. Et pour mettre toutes les chances de leur côté, les autorités modernisent et agrandissent plusieurs sites. C'est le cas de Ouida, haut lieu religieux, historique et culturel situé à une 40aine de kilomètres de Cotonou. C'est le site de la célèbre porte du non-retour dédiée à la mémoire de l'esclavage. Un reportage signé Bruno Faure pour Afrique Économie.
Face à la plage, sur le golfe de Guinée, un chantier spectaculaire. La Marina de Ouida, ce sera un hôtel de 130 chambres conçu par un groupe chinois. Des loisirs, des services, un bateau-musée, un parcours sur les lieux de l'embarquement des esclaves africains du 15e au 18e siècle.
Je m'appelle Modeste Oihin, guide touristique. Je fais le Bénin, Togo et le Ghana. Je crois que ce qui se passe actuellement au Bénin, c'est énorme. Déjà, les voies bitumées et la place Vaudou ici à Ouida. Je crois que tout le monde en profite déjà, commençant par ceux qui bâtissent les routes et autres, et nous principalement les guides touristiques et les agences de voyage.
Des bénéfices pour les professionnels, notamment à l'occasion des Vaudou Days, plus de 430 000 visiteurs lors de l'édition 2025, record absolu. Et pour la municipalité de Ouida, le maire Christian Wetchenou.
Aujourd'hui, le programme touristique nous permet d'accroître les ressources propres de la ville. Progressivement, nous passons le budget de la commune. Depuis 2020, nous sommes arrivés où on était à 2 milliards de francs CFA, ce qui fait environ 3 millions d'euros. Nous sommes passés à plus de 4 milliards de francs CFA, ce qui fait 6 millions d'euros aujourd'hui. La plupart de ces ressources sont remises dans le programme de développement de la ville. Il y a une partie qui va
pour soutenir les infrastructures culturelles. Nous avons également une partie qui est mise dans la sécurité.
La sécurité avec la création d'une police touristique. Le maire veut multiplier par 10 le nombre de lits d'hébergement, un soutien aux hôteliers et aux restaurateurs comme Clémencia D'Assouza, gérante de la cabane, quelques tables au nouveau centre culturel de la ville.
La qualité des aliments, la propriété, là c'était évident. Donc il fallait rénover, il fallait faire des formations aux employés, les sensibiliser pour que quand les gens viendront, ils ne trouvent rien à dire. Il faut qu'on reçoive seulement des félicitations. Au Bénin, on a un problème. Et particulièrement à Ouida, les gens n'aiment pas quitter Cotonou. Donc pour avoir cette main-d'œuvre, il faut les aider. Par exemple, trouver un logement pour eux. Donc là, je sais que l'année prochaine, nous allons améliorer cette organisation.
L'an prochain, 2026, la date espérée pour l'ouverture du Musée international de l'histoire de l'esclavage dans le fort portugais de Ouida.
Bruno Faure pour le dossier Afrique Économie de ce jeudi. Il a vécu une année 2024 semée d'embûches, mais semble revenir en force en 2025. Samuel Eto'o a été élu hier au Caire, au comité exécutif de la Confédération africaine de football. L'ancienne star du football camerounais devient ainsi l'un des 21 patrons du football africain. Alors, comment y est-il parvenu? Élément de réponse avec Abdoulaye Thiam, président de la section Afrique de l'Association internationale de la presse sportive. Il est ce matin l'invité de Christophe Boisbouvier.
Écoutez, c'est une très belle remontada, comme d'ailleurs a l'habitude de faire son ancien club, le FC Barcelone. La vie de Samuel Eto'o fils, comme vous le savez aussi, a été parsemée d'embûches, mais il a toujours su tirer son épingle de jeu. C'était pas facile, il menait une bataille d'abord contre l'ancien président du comité de normalisation de son pays, Saïdou Mombo, mais aussi contre le ministre des Sports, mais également contre la Confédération africaine de football qui l'avait déclaré inéligible. Mais Samuel Eto'o étant Samuel Eto'o, il a poursuivi l'affaire jusqu'au TAS qui lui a donné finalement raison.
Le TAS qui lui a donné raison, c'est donc le tribunal arbitral des sports. Mais en janvier dernier, comme vous l'avez dit, la CAF avait refusé qu'il soit candidat. Comment a-t-il réussi cette remontada finalement?
Parce qu'il a saisi le TAS, il a poursuivi donc son combat jusqu'au niveau du tribunal arbitral des sports. Il a amené tous ses dossiers, il a pris de bons avocats, il a défendu son dossier, le TAS lui a donné raison. Aujourd'hui, il est là. Reste à savoir maintenant si dans les 4 prochaines années, il envisagera de briguer la présidence de la Confédération africaine de football et pourquoi pas devenir président, par exemple, là où Michel Platini a échoué en Europe.
Oui, vous dites qu'il peut viser dans 4 ans la succession de Patrice Motsepe. Hein.
Pourquoi pas? Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, quelqu'un qui est courageux. Beaucoup de gens le pensent ici, dans les coulisses. Samuel Eto'o pourrait être candidat, pourquoi pas, en 2029.
Entretien entre Christophe Boisbouvier et Abdoulaye Thiam, président de la section Afrique de l'Association internationale de la presse sportive, à retrouver en intégralité dans une heure sur nos antennes et sur RFI.fr. 5h55 ici à Paris, avant de retrouver Andréane Mélard pour le début des RFI matin, c'est l'heure de l'humeur de Maman, direction le Gondwana où les miracles et les coupures se retrouvent dans tous les secteurs de la vie quotidienne.
Oui, un très démocratique république, il suffit de se baisser pour ramasser les miracles à l'appel. Miracle de la nature, avec des chèvres qui mangent des sacs plastiques, des enfants qui slaloment entre des voitures roulant à grande vitesse, juste pour te vendre de l'eau en sachet ou des chips de banane. Miracle technologique, avec des bus bondés de monde, des bus datant de la Première Guerre mondiale, mais roulant encore aujourd'hui dans les rues de Gondwana City, notre belle capitale, dans un nuage de fumée noire toxique. Miracle, je vous dis! Des miracles à chaque coin de rue. Par exemple, tu es là, chez toi, et hop, le courant s'en va. Plus de lumière, plus de frigo, plus de clim, plus rien du tout. Puis, hop, ben ça revient, que comme un miracle, comme si de rien n'était. Et la lumière fuit, puis elle fuit à la vitesse de la lumière, sans que tu saches quand elle reviendra, et ainsi de suite, de coupure en délestage, de miracle en miracle, comme la vie en très démocratique république. Miracle, je vous dis, comme quand, ébahi et désarçonné, ben tu te rends compte que les délestages et coupures, ce n'est pas réservé à ton compteur électrique, mais aussi à ton compte bancaire, ou plutôt à ton salaire. Oui, mesdames et messieurs, au Gondwana, il y a délestage de salaire. Attends, tu es là, tranquille, tu pars au travail tous les matins, le cœur léger, en attendant attendant la fin du mois, avec des projets plein la tête, chaque dollar gondouanais déjà assigné à une tâche bien précise, puis, patatras, il y a eu un gros trou dans ton salaire. Délestage dans ton salaire, mon ami. Oui, il est plus léger, amputé d'un bon petit pourcentage qui va t'obliger à amputer quelques-uns de tes projets. C'est à cause du Covid, te dit-on. De la guerre en Ukraine, te dit-on. Mesure d'austérité, te répète-t-on. Loi des finances, t'assène-t-on. Ton salaire marche sur une patte, il boite. C'est pour ça qu'il arrive en retard dans ta poche quand il arrive. Parce que miracle des miracles, ben il y a des mois où il n'arrive même pas. Coupure de salaire. Un coup il y en a, un coup il y en a plus. Et comme les miracles volent toujours en escadrille, tu regardes monter les prix de l'essence, de la viande, du riz, du loyer, et tu dois payer tout ça avec ton salaire délesté. C'est donc normal, mais que toi aussi, maintenant, tu joues au faiseur de miracles en faisant des délestages au travail. Un coup tu travailles, un autre tu es en grève. Un coup tu ne travailles pas, un coup tu pars te débrouiller en ville, histoire de dire au gars en haut de en haut que comme il t'avait oublié quand l'économie coulait à flot, eh ben, aujourd'hui que la crise a frappé, eh ben, tu travailleras au prorata des délestages et coupures qui ont frappé ton salaire à délesteur et demi. À lundi.
À lundi, maman, et très bon week-end à vous. 5h58 ici à Paris, c'est la fin de cette deuxième demi-heure consacrée à l'actualité africaine. Merci à Thierry Le Saint à la réalisation, à Xavier Besson à la rédaction en chef. Le prochain point complet sur l'actualité africaine dans 30 minutes avec Vincent Dublange. Nous sommes à Kinshasa dès le début de ce journal pour parler de ce sommet extraordinaire de la SADC consacré à la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. Avant cela, c'est le début des RFI Matin et c'est Andréane Mélard que vous retrouvez. Bonjour Andréane.
Bonjour Nemo, bonjour à vous qui nous écoutez RFI Matin. Ravi de vous retrouver pour un nouveau tour du monde de l'actualité. Ce jeudi, on va beaucoup parler de l'Ukraine, de la Russie, alors que cette guerre prend encore un nouveau tournant. L'ambassadeur de France en Ukraine, Gaël Vessière, viendra en studio nous en parler de ce tournant et de l'implication de la France dans ce conflit. Nous appellerons aussi Guillaume Ancel, expert militaire, pour faire un point sur la situation sur le terrain. On y revient aussi dans nos journaux avec nos correspondants, nos envoyés spéciaux. Bienvenue si vous nous rejoignez, c'est RFI Matin jusqu'à 9h.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
À l'occasion du Salon du Livre Africain et du Printemps des Poètes, je reçois Véronique Tadjo pour son recueil intitulé « L'Atérite » qui vient d'être réédité. Des poèmes qu'elle avait écrits lors d'une traversée entre Abidjan et Paris en hommage à la culture Sénoufo, un livre précieux à redécouvrir.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Vendredi, à partir de 13h30 TU.
RFI.